C'est le thème de l'autorité, de son exercice que le Seigneur, que l'Église nous propose de méditer à la suite des enseignements du Seigneur lui-même. Siéger à la droite ou à la gauche du Christ dans sa gloire. Voilà, c'était l'objet de contemplation et de désir de Jacques et de Jean. À un autre endroit, on nous dit que c'était leur mère qui les poussait à faire cette demande. Enfin, peu importe. Ils n'ont fait la demande en question. Et on constate dans cette demande un petit peu, le niveau spirituel des disciples à ce moment-là. Ils ont bel et bien le sens de la transcendance. En cela, ils se démarquent du judaïsme. Ils ont déjà reçu de Jésus cette verticalité qui fait que, d'abord, on a conscience, ils ont conscience, que le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Donc, ils ne vont pas chercher en ce monde une récompense. Ce n'est pas l'objet de leur démarche. Donc, contre toutes les formes de foi ou les religions qui associent bénédiction de Dieu et bénédiction matérielle et bénédiction de pouvoir, eh bien, tout cela, ils l'ont déjà dépassé. Pourtant, ils font quand même cette demande. C'est ce qu'ils n'ont pas encore, ce qu'ils ne sont pas parvenus à atteindre, à réaliser, c'est la maturité de la foi, c'est-à-dire la connaissance même de Dieu, la mentalité de Dieu en quelque sorte, la logique d'amour qui fait que Dieu est Dieu, cette logique qui est vraiment au-dessus des lois de notre monde. Et ça, les disciples, à cause de cette demande, démontrent eh bien, qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus est venu accomplir en réalité et qui sont les trois personnes de la Trinité. Là, pas de pouvoir, pas de puissance, c'est pas du tout la préoccupation de Dieu. On pourrait dire, par exemple, eh bien, que Dieu est tellement surpuissant, tout puissant, dit-on naturellement, eh bien que à quoi bon se comparer à qui que ce soit, à quoi que ce soit, ce serait tellement insuffisant, ce serait presque offensant. Et donc, la volonté de puissance, ça n'existe pas du côté de Dieu. Ça, alors absolument pas. La coupe que je vais boire, Jésus, alors là, à ce moment-là, leur parle de sa passion. Vous êtes préoccupés par des questions de place, mais moi, je vais vous indiquer la route à suivre, la logique qui est la mienne. Et il parle de la coupe. Cette coupe qui est cette boisson amère que le Seigneur a bu pour le salut des âmes, pour nous tirer de notre enlisement. Les hommes vivaient dans des tombeaux et encore aujourd'hui, en dehors de la foi, on voit les hommes vivent dans des tombeaux. Ils s'abritent derrière des petits édifices matériels et des œuvres matérielles à accomplir pour donner sens à leur vie. Et puis quand ils périront, bien tout cela les ensevelirons. Et puis voilà. Les hommes vivent dans des tombeaux. Ils ne cultivent pas le culte de la vie, mais le culte de la mort. La coupe que je vais boire, c'est ce qui nous a libérés. C'est un nectar, mais un nectar qui est bien difficile à digérer pour nous. Il est comme le petit livre d'Ézéchiel ou de l'Apocalypse. Il est doux comme le miel dans la bouche, c'est-à-dire quand on le contemple, lorsqu'on voit ce qui préoccupe le cœur de Dieu, mais il est tellement amer à nos entrailles. Et notre volonté, elle, le ressent durement, ce nectar. La place d'honneur, c'est être un ami de Dieu. Voilà ce que Jésus leur dit. Ce qu'il donne en partage, c'est son cœur à travers cette coupe. Il partage, vous savez, dans les derniers discours, juste avant sa passion, justement, les discours de la dernière scène, il dit « Le serviteur ne sait pas ce que veut faire son maître. Il n'est pas dans la confidence. Mais vous, je vous appelle maintenant mes amis parce que tout ce que le Père m'a donné à faire, eh bien, je vous l'ai révélé. » Eh bien, là, déjà, de façon anticipée, c'est ce qu'il me dit, Finalement, ils ne condamnent pas Jacques et Jean. Ils voient à la fois qu'il y a quelque chose de positif dans leur demande et en même temps quelque chose de complètement immature et de très négatif. Mais c'est les deux à la fois. Alors il leur propose d'entrer dans son secret, d'entrer dans son cœur. Et quand on médite la passion, au-delà de la répugnance première qu'on peut avoir, eh bien, on est dans le même état spirituel que les disciples à ce moment-là. On est introduit, eh bien, dans l'intimité du cœur de Jésus. Dès qu'on médite la passion. La passion, c'est vraiment le secret du cœur de Jésus. C'est pourquoi elle est tellement importante. La réaction des autres disciples prouve une chose. Pas seulement qu'eux, ils sont bien et que les deux autres sont vraiment grossiers par rapport à eux. Pas du tout. S'ils réagissent ainsi, s'ils se scandalisent, c'est justement parce qu'ils partagent la même logique. Et la même logique de pouvoir que Jacques et Jean, que les êtres humains en général. Aussi, ce sera une leçon pour tous que Jésus leur donne à travers la contemplation de l'idéal du service. Le Fils de l'homme est venu pour servir, pas pour régner. S'il était venu pour régner, il aurait instauré un grand et puissant royaume en ce monde. Il aurait fait toutes choses, il l'aurait structuré, il l'aurait fait connaître, etc., etc. Son royaume, comme il le dit à Pilate, n'est pas de ce monde. Et ça, c'est donc le sens de la transcendance. Mais quand on veut participer, quand on veut avoir une bonne place, eh bien, il faut avoir une bonne place dans le cœur de Jésus. C'est tout simplement ce que Jésus dit. Rechercher la meilleure part, c'est ce que faisait Marie au pied du Seigneur, tandis que Marthe, eh bien, s'occupait un peu trop des affaires matérielles pour recevoir Jésus. C'était une bonne cause, mais la première place, c'était d'être au pied du Seigneur. Le regard du Christ sur l'autorité humaine, eh bien, est vraiment, une véritable gifle. C'est intéressant parce que ce texte-là nous révèle la façon dont Jésus regardait l'exercice du pouvoir, de l'autorité chez les hommes, là, dans les sociétés qui l'entouraient, en Israël d'abord. Le pouvoir religieux, le pouvoir civil, etc., domestique aussi. C'est une époque où l'esclavage régnait, etc. Le regard de Jésus, ce qu'il analyse, ce qu'il conclut, c'est que l'exercice de l'autorité vécu par les hommes, sans Dieu, il est fait de dureté et d'orgueil. Voilà le jugement du Seigneur sur la façon dont les hommes exercent l'autorité. Dureté et orgueil, dureté de cœur, orgueil de l'esprit. Les puissants, je sais pas, exercent une fascination, c'est la fascination même du pouvoir et de la puissance. Et on voit dans cette fascination naturelle que tout le monde ressent par rapport à quelqu'un qui sort d'une superbe voiture, superbement habillé et entouré avec des gens au garde-à-vous tout autour d'eux. Enfin, dès qu'il y a un déploiement de puissance, de couleur et d'argent, les hommes sont impressionnés. Et ça nous montre que l'autorité, c'est quelque chose qui ne touche pas notre intériorité en quelque sorte. Ça vient vraiment de l'extérieur. Cette autorité, elle est inféconde. Et puis surtout, elle est fondamentalement mauvaise. Dureté et orgueil. C'est la matière, le matériau dont sont faits ces gens qui exercent l'autorité, nous dit Jésus. Attention, en dehors de Dieu, en dehors de la vérité et de l'amour, bien évidemment. Mais ils sont faits de dureté et d'orgueil. Comment peuvent-ils nous impressionner ? Il y a quand même une sorte de mirage là-dedans. une espèce de vertige. Ils ne devraient pas, puisqu'ils sont vides, ce sont des coquilles vides, mais qui résonnent de façon glorieuse et qui vraiment assomment littéralement les intelligences de ceux qui les contemplent. Donc Jésus, lui, rejette cette autorité fondée sur la puissance et l'abêtissement, dirais-je, et le manque d'amour. L'homme doit être le serviteur d'une cause plus grande que lui. Sinon, c'est l'autorité qu'il dénonce. C'est forcément une tyrannie. Et ça veut dire aussi que les hommes n'ont pas beaucoup d'exigences par rapport à ceux qui exercent l'autorité. Et Jésus leur dit, bien, ayez une exigence, celle du service. Le service du bien commun, le service d'une nation, etc., etc. Et de l'Église aussi, bien évidemment. Dans l'Église, ceux qui exercent l'autorité de façon humaine, Jésus les compare à des mercenaires. Il les oppose aux pasteurs. C'est des gens, et c'est l'équivalent des autorités civiles qu'il dénonce. L'apôtre, pour entrer dans cette perspective de service, et servir, ça veut dire donner sa vie pour tous, aller jusque-là, alors soit au sens propre, mais au sens figuré aussi, tout son temps et son attention aux autres, pour tous, mais pour y parvenir, il faut d'abord donner sa vie à Jésus. Et alors, on peut donner sa vie et servir le plus grand nombre ensuite. Si on prétend servir le plus grand nombre sans le faire précéder par l'amour intime de Jésus, sans être passé par le partage de ses sentiments, de son cœur, de son intimité, eh bien on échoue et on est tout seul. Le salut des âmes, c'est la seule vérité qui compte pour nous éclairer dans l'Église. Donc, aimons le Seigneur, apprenons à aimer le Seigneur, apprenons à reconnaître aussi les véritables pasteurs, que ce soit dans l'Église, que ce soit aussi en dehors de l'Église, au niveau politique ou économique. Ne vouons pas un culte à la dureté et à l'orgueil. Ce serait vraiment enfoncer encore plus l'humanité dans ses tendances vers les ténèbres.